VOA Afrique, les infos. À Washington, Nathalie Barge.
Bonsoir, au sommaire de cette édition du 20 avril 2017. Au Cameroun, report du verdict du procès contre le journaliste de RFI Ahmed Abba, risquant la peine de mort pour complicité de terrorisme. Rétablissement de l'état d'urgence au Mali après une nouvelle attaque meurtrière. Kampala annonce retirer ses troupes de la Centrafrique où elle pourchassait les rebelles de la LRA. Naissance du mouvement de la liberté en Afrique du Sud qui appelle à manifester contre le président Suma. Le Conseil de sécurité menace Pyongyang de sanctions suite au dernier tir de missile de la Corée du Nord. Et les ministres des Finances et grands banquiers de 189 pays assistent à l'Assemblée de printemps du FMI à Washington. L'économie et les sports, ce sera juste après le journal. Le tribunal militaire de Yaoundé a reporté au 24 avril le verdict du procès contre le journaliste de RFI Ahmed Abba, incarcéré depuis 10 mois et qui risque la peine de mort pour complicité de terrorisme, selon un de ses avocats. Les juges avaient jusqu'à ce jeudi dernier délai pour prendre leur décision, a précisé maître Charles Tchongang, qui s'est déclaré surpris par ce report s'inscrivant hors de la loi. Selon lui, Ahmed Abba est poursuivi pour non-dénonciation d'actes de terrorisme, apologie et blanchiment d'actes de terrorisme. Il a été arrêté fin juillet 2015 à Maroua, dans l'extrême nord du Cameroun, avant d'être transféré à Yaoundé. Le 6 avril, le parquet a requis la peine de mort. Les avocats ont demandé son acquittement. Ahmed Abba clame son innocence alors que le parquet estime qu'il a collaboré avec des islamistes de Boko Haram. Nous y reviendrons dans la rubrique des dossiers. Le gouvernement malien a rétabli l'état d'urgence pour 10 jours depuis l'attaque meurtrière contre l'hôtel Radisson Blue de Bamako en 2015. L'état d'urgence a été instauré à plusieurs reprises. Abdourahmane Dia.
Cette fois, la mesure a été prise au lendemain d'une nouvelle attaque à Gourma Rarous dans la région de Tombouctou qui a fait 5 morts et une dizaine de blessés dans les rangs de l'armée malienne. Dans un communiqué, le gouvernement explique que la situation sécuritaire au Mali et dans la sous-région reste caractérisée par la persistance de la menace terroriste ainsi que des risques d'atteinte grave à la sécurité des personnes et de leurs biens. L'état d'urgence accorde plus de pouvoir aux forces de sécurité et restreint les rassemblements publics. Mais son instauration n'avait pas permis de juguler les attaques dans le nord et le centre du pays où les troupes maliennes et onusiennes sont souvent la cible de djihadistes. Les islamistes ont été en grande partie chassés par une intervention militaire internationale lancée en janvier 2013 à l'initiative de la France. Mais des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'ONU.
Un suspect a été arrêté dans l'est de la RDC en lien avec le meurtre d'un médecin proche du docteur Denis Mukwege, chirurgien connu pour son aide aux femmes violées. Boutouné Emmanuel est en garde à vue depuis hier en relation avec le meurtre du docteur Gildo Biyamungu, a déclaré Linda Maregane, porte-parole de la police du Sud Kivu. Le docteur Biyamungu est décédé vendredi de ses blessures après avoir été atteint par balle à son domicile par des inconnus. Interrogé sur les raisons qui auraient poussé à retirer quelques jours plus tôt au médecin l'équipe de policiers qui était commis à sa garde, Madame Maregane n'a pas souhaité répondre, rapporte l'AFP. En Afrique du Sud, des leaders de l'opposition et de la société civile ont annoncé la création du Mouvement de la Liberté. Cette nouvelle organisation appelle à des manifestations contre le président Jacob Zuma. Le point avec Solange Niamoulissa.
Le mouvement appelle les Sud-Africains à manifester le 27 avril prochain, jour de la liberté, une journée fériée dans le pays. La nouvelle coalition estime qu'il est urgent de s'unir pour stopper la trajectoire actuelle de l'Afrique du Sud. Elle envisage une série de marches pour exprimer leur colère contre le président Zuma. Moussi Maïman, chef de l'Alliance démocratique, principal parti d'opposition, a dit à Soweto qu'il lutte pour la liberté de tout un chacun. Ce nouveau mouvement n'est pas un parti politique. Pour l'instant, les combattants pour la liberté économique de Julius Malema n'en font pas partie, mais Desmond Tutu a tweeté qu'il soutenait le principe d'une coalition appelant les Sud-Africains à manifester le 27 avril contre Jacob Zuma. Le président Zuma, empêtré dans plusieurs scandales, fait face à la grogne croissante, y compris dans son propre parti, l'ANC, au pouvoir.
Visite du secrétaire américain à la Défense en Égypte. Le séjour de Jim Mattis s'inscrit dans le cadre du réchauffement des relations entre Washington et le Caire depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche. Timothée Donangmaï.
Le patron du Pentagone s'est entretenu avec son homologue égyptien Sedki Sobhi et le président Abdel Fattah el-Sissi, dont la visite en début de mois à la Maison Blanche était la première d'un chef d'État égyptien depuis 2009. L'aide annuelle américaine à l'Égypte se chiffre à environ 1,5 milliard de dollars, dont 1,3 milliard dans le domaine militaire. L'Égypte connaît des difficultés politiques et financières, mais les États-Unis souhaitent qu'elle demeure fermement engagée dans la lutte contre le terrorisme. Les deux pays apportent un appui militaire à la lutte contre le groupe État islamique en Libye. Toutefois, Washington soutient le gouvernement libyen reconnu par la communauté internationale, alors que le Caire a pris le parti du général Khalifa Haftar. James Mattis, qui venait d'Arabie Saoudite, a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu au Caire avant de s'envoler pour Israël, troisième étape de son périple au Moyen-Orient.
Le président kényan Uhuru Kenyatta a promis la fermeté aux fauteurs de troubles dans le pays à plus de trois mois des élections générales du 8 août. En tant que parti, nous ne tolérerons aucune violence. En tant que président, je ne tolérerai aucune violence, a déclaré Monsieur Kenyatta, candidat à un second mandat.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution qui condamne fermement le dernier tir de missile nord-coréen et menace le régime communiste de nouvelles sanctions au terme d'un compromis avec la Russie. Les pays membres condamnent à l'unanimité le comportement hautement déstabilisateur de Pyongyang et exhortent à ne pas mener d'autres essais nucléaires, a-t-il déclaré, ajoutant que les activités illégales de missiles nucléaires et balistiques de la Corée du Nord font considérablement monter la tension dans la région et au-delà. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a dénoncé les accusations des États-Unis selon lesquelles Téhéran chercherait à produire une bombe nucléaire pour menacer la région et le monde. Des précisions avec John Lyndon.
Les accusations des États-Unis ne peuvent cacher le fait qu'ils ont admis que l'Iran respectait les termes de l'accord sur son programme nucléaire conclu en 2015 avec les grandes puissances, a écrit M. Zarif sur Twitter. Téhéran affirme que son programme est exclusivement destiné à des fins pacifiques, mais il a signé avec six grandes puissances un accord limitant pendant 10 ans l'enrichissement d'uranium en échange d'une levée de sanctions. La Maison-Blanche a certifié mardi que l'Iran respectait ses engagements, mais a estimé que cet accord n'était qu'une façon d'acheter le régime iranien et ne faisait que retarder le développement de son programme nucléaire. Mercredi, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a estimé que l'accord nucléaire avec l'Iran échouait à remplir ses objectifs et que le président Donald Trump a ordonné la réévaluation de la position de Washington face à Téhéran.
Les institutions financières internationales ont de nouveau mis en garde contre la menace protectionniste à l'heure du Brexit et face à une administration Trump hostile au libre-échange. Le commerce a été un moteur extrêmement important de la croissance économique et de la réduction de la pauvreté que nous voyons depuis 30 ans, a déclaré à Washington le président de la Banque mondiale Jim Yong Kim à l'ouverture de l'Assemblée de printemps de son institution et du FMI. Le printemps économique arrive, a estimé la directrice du fonds Christine Lagarde. Le frère d'un des organisateurs présumés de l'attentat de Saint-Pétersbourg, qui a fait 14 morts début avril, a été placé en détention ce jeudi devenant le 10e suspect entre les mains de la justice. Akram Azimov a été arrêté hier par les services de sécurité russes près de Moscou en possession d'une grenade. Un tribunal de la capitale a ordonné son incarcération jusqu'au 3 juin, le temps de l'enquête. Des agents des forces anti-émeutes vénézuéliennes ont lancé du gaz lacrymogène pour disperser des rassemblements d'opposants à Caracas avant une deuxième journée de manifestations hostiles au président Nicolas Maduro. Ces incidents ont eu lieu à Santa Monica, et El Paraiso dans l'ouest de la capitale au lendemain de manifestations massives au cours desquelles 3 personnes ont été tuées. Et Cidjo, filiale américaine du groupe pétrolier public vénézuélien PDVSA, a fait un don d'un demi-million de dollars au fonds d'investiture de Donald Trump, selon des documents de la Commission électorale fédérale des États-Unis. La compagnie fait partie des 20 entreprises et particuliers qui ont fait les dons les plus importants au comité d'investiture du président Trump, qui a recueilli quelque 107 millions de dollars pour les festivités en janvier. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Claire Morin-Gibourg.
Après l'Ouganda et le Kenya, la chenille légionnaire d'automne a été détectée au Rwanda dans le district de Nyamagabe. L'Office rwandais de l'agriculture s'est voulu rassurant, affirmant que l'invasion était pour le moment sous contrôle. L'armée rwandaise, elle, dressait un bilan plus alarmiste en indiquant que l'insecte est devenu une réelle menace pour la sécurité alimentaire nationale. La chenille s'attaque majoritairement au sorgho et au maïs, dont le Rwanda produit chaque année environ 900 000 tonnes. Près de 80% des 11,7 millions d'habitants de ce pays dépendent de l'agriculture. À Abidjan, les ministres en charge de l'agriculture et de l'industrie de l'Afrique de l'Ouest ont entamé des concertations en vue d'accélérer le développement industriel de l'anacarde et du cacao. Regrettant les faibles taux de transformation dans les principaux pays africains, les ministres préconisent une meilleure coopération régionale. Au Burkina Faso, les résultats d'une FinScope, l'enquête sur l'inclusion financière du ministère de l'économie, ont été publiés. 40% des adultes burkinabés n'utilisent aucun produit ou service financier et 49% des citoyens burkinabés n'avaient aucune épargne au moment de l'enquête.
À présent, les sports avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Nathalie.
Alors, en football, revenons sur les deux matchs d'hier. D'abord, l'élimination de Barcelone.
On parle même de la guillotine, Nathalie. La génération dorée n'est plus à la hauteur de la Ligue des Champions. Barcelone est absent du dernier carré pour la 3e fois en 4 saisons. Le roi est nu, un monarque vieillissant, titre certains journaux sportifs. La dynastie barcelonaise a dominé la Ligue des Champions pendant une décennie avec 4 titres en 2006, 2009, 2011 et 2015. Le club a grand besoin de 109, notamment pour reconstruire son milieu de terrain. Messi et ses coéquipiers ont toutefois eu droit à une immense ovation en fin de match pour dire au revoir à Majesté et qui n'ont pas démérité. Belle revanche de la Juventus en tout cas, car en 2015, les Turinois ont perdu la finale par 3-1 face aux Catalans, Nathalie.
Et Monaco a séduit.
C'est l'invité surprise de la Ligue des Champions. Les Monégasques ont offert un football d'attaque. La naissance d'une future étoile Mbappé, français de parents congolais. La montée en puissance de Bakayoko, Mendy et Sidibé. La confirmation du talent de Lemar et Silva. L'émergence de Touré ou encore l'émancipation de Fabinho n'ont laissé aucune chance aux Allemands du Borussia Dortmund. La composition actuelle, Nathalie, rappelle l'époque de l'icône Jojo Weah, les années 88. Et jamais depuis la refonte de la Ligue des Champions dans sa version moderne en 92-93, une équipe passée par le troisième tour préliminaire, puis des barrages, n'avait atteint les demi-finales.
Eric, dites-nous quelles vont être les affiches des demi-finales de Ligue des Champions.
Nyon, le siège de l'UEFA décide demain au tirage au sort à partir de 10h, temps universel. Deux énormes machines, le Real Madrid et la Juventus de Turin, un habitué, l'Atlético Madrid et un invité surprise, Monaco. Alors, le Real Madrid tenant des titres et l'expérimenté Juventus vont figure d'épouvantail. Mais en 2015, la Juve avait balayé le Real à ce stade de la compétition. Un choc entre les deux clubs serait intéressant.
Un grand merci, Eric, pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers d'actualité. Au Cameroun, le journaliste de langue Ossa de RFI, Ahmed Abbas, sera fixé sur son sort le 24 avril. Le délibéré sur l'affaire qu'il oppose au gouvernement a été renvoyé à cette date. Des faits de non-dénonciation d'actes de terrorisme et blanchiment des produits d'actes de terrorisme lui sont reprochés. Il risque la prison à vie. Notre correspondant Emmanuel Juntap a recueilli des réactions d'après le report du délibéré à Yaoundé.
La surprise, sentiment partagé par de nombreux observateurs après le report du délibéré sur l'affaire ministère public camerounais contre le correspondant de RFI en langue Haoussa, Ahmed Abba. La surprise, surtout après la réquisition du commissaire du gouvernement qui a demandé que le journaliste soit condamné à vie et non plus à mort. Dès cet instant, le verdict final était suspendu aux lèvres du président du tribunal. 3 heures d'attente et au bout, un report du délibéré au 24 avril prochain. Maître Charles Tchungang, avocat du journaliste Ahmed Abba, ne sait plus où donner de la tête.
Pourquoi reporte-t-on cette décision? Y a-t-il eu un problème parmi les membres? N'est-ce pas le tribunal? On n'en fait rien. Il y a eu tellement de pression et d'intervention dans ce dossier. Qu'est-ce qui a pu se passer entre midi et 15h? On a même vu que le porte-parole de l'armée qui s'est déplacé pour un délibéré, ce qui est quand même quelque chose d'exceptionnel.
Un report qui a laissé aussi les responsables de Radio France Internationale venus assister au procès sans voix. Pas de commentaires en public, mais en off, un sentiment de gêne sur le sort subi par leurs employés, les faits de non-dénonciation d'actes de terrorisme et blanchiment des produits d'actes de terrorisme ont finalement été retenus par les juges contre le journaliste Ahmed Abba. Du coup, c'est la loi antiterroriste du Cameroun qui subit les foudres des hommes politiques présents dans la salle d'audience. Okala et Bodé est du mouvement de la Renaissance du Cameroun.
Ahmed Abba est poursuivi dans le cadre de la loi de 2014, autant répression des actes de terrorisme, loi que le MSC a fortement dénoncée en son temps. Mais nous étions scellés dans ce combat. Aujourd'hui, l'utilisation que le gouvernement en fait nous donne raison. Cette loi n'était pas faite essentiellement pour combattre le terrorisme, mais pour, n'est-ce pas, empiéter également sur l'exercice des libertés.
De nombreux journalistes venus assurer la couverture du procès appréhendent désormais leur métier au Cameroun, au vu de la peine qu'encourt le correspondant de RFI en langue Haoussa, Jean-Charles Billot, de Radio Tiémini Siantou.
Vous, en tant que journaliste, lorsque vous avez quelqu'un qui vous donne des informations, est-ce qu'il faudrait livrer cette personne-là? Alors ça, c'est un premier aspect. Le second aspect, c'est dans l'exercice même de la profession, comment est-ce que nous allons exercer, sachant que en collectant, en traitant et en diffusant, nous avons au-dessus de nous une loi antiterroriste qui pèse. Alors qui, à tout moment, peut vous rappeler que ce que vous avez fait là, vous êtes condamné, vous êtes considéré aujourd'hui comme un terroriste.
Lundi 24 avril 2017, sera-t-il le jour du verdict final dans cette affaire? Tout le monde l'espère. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Inquiétude en Centrafrique suite au départ des troupes américaines et ougandaises stationnées dans l'est du pays pour traquer les rebelles de la LRA. À Bangui, le gouvernement entend reprendre la main dans la région. Un reportage de Freeman Sipila.
Le retrait des troupes américaines et ougandaises de la RCA a renforcé la crainte des populations de la région de l'Est. Les violences meurtrières qui ont secoué ces 3 dernières années le pays n'ont pas affecté les localités où étaient basés des soldats américains ou ougandais. Quelques jours aujourd'hui, après l'annonce du départ de ces forces de lutte contre la LRA, l'armée de résistance du Seigneur, les groupes armés commencent à s'activer dans cette partie du pays. Un véritable danger, remarque Serge Soleil Sirimalé, coordonnateur de l'Observatoire national des élections.
Sur la question de la sécurité, le retrait des militaires américains de la zone de l'est du pays, précisément de la ville d'Obo, pourrait accroître l'insécurité au sein de la population civile de cette localité. A-t-on envisagé une alternative au retrait des troupes américaines? De ce qui précède, l'Observatoire national des élections recommande la restauration effective de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire centrafricain.
L'inquiétude monte également au sein de la population. Les attaques armées deviennent récurrentes. Les appels à l'aide se multiplient. La Commission nationale pour les réfugiés tire la sonnette d'alarme sur la situation des civils et des réfugiés congolais de la République démocratique du Congo, basée dans l'est de la RCA. Valérie Yamandé, son secrétaire général.
La Commission nationale pour les réfugiés informe l'opinion nationale et internationale que dans la nuit du 15 avril 2017, la ville de Zemio a été attaquée par un groupe armé. Le bilan de cette attaque fait état de 2 morts, des blessés et plusieurs déplacés. La CNR se dit très inquiète de la situation et craint une escalade.
De son côté, Bongui joue à la carte d'apaisement. Le porte-parole de la présidence centrafricaine rassure que l'armée nationale sera bientôt déployée avec les forces de la MINUSCA dans cette partie du pays. Albert Yaloké, Mokpem.
Nous déplorons ce départ compte tenu de l'état actuel de nos forces. Ce qu'il faut dire aux centrafricains qui nous écoutent. Le président de la République a posé ce problème et un certain nombre de pays, notamment les États-Unis, ont décidé d'apporter leur contribution au renforcement de nos forces de défense et de sécurité pour les apprêter à pallier à toute éventualité.
L'armée en pleine refonte doit être redéployée dans l'Est. Question, quand et avec quels moyens? Freeman Sipila, Bongui, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale est décriée par des organisations de la société civile. Elle est au centre d'un mouvement d'humeur d'organisations qui ont dénoncé et sévèrement accusé cette coalition de l'opposition de posséder un agenda caché derrière la mission prônée par ses membres. Notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
Différents mouvements de la société civile se sont rassemblés ce matin ici au cimetière municipal pour dire leur opposition aux activités menées par la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, mais aussi à certains juges accusés de vouloir faire le jeu de certains barons du régime de Blaise Compaoré en attente de jugement sur les dossiers de l'insurrection et du putsch manqué. Debout au milieu des tombes des martyrs, les différents responsables de ces mouvements ont indiqué d'une voix unique la ligne rouge à ne pas franchir, tant pour les responsables de la CODER que pour les 10 juges. Marcel Tankwano, président du M21, et porte-parole du rassemblement.
Nous avons interpellé là le président du Faso en lui disant tout simplement de dissoudre la CODER qui nous divise énormément. Nous ne pouvons pas comprendre que dans ce pays, après ce grand changement, des gars ont quitté ce pays-là à midi pile et qui se retrouvent de l'autre côté, qui ont même changé de nationalité. Que des Burkinabés aient le courage de se rendre là-bas et de revenir nous narguer en disant que le monsieur se porte bien, il est à l'aise. Il nous a envoyé de vous demander, de vous dire qu'il vous pardonne. En vertu de quoi? Nous avons dit c'est le Rubicon. Si ces messieurs continuent, le reste, vous apprendrez tout simplement. Aujourd'hui, nous avons les yeux vraiment tournés vers ce procès qui va s'ouvrir le 27. Nous avons également dit à la justice burkinabé, le dossier de l'insurrection et du push manqué, ils n'ont qu'à aller très rapidement. Voilà, après 2 ans, il n'y a pas une explication encore possible. Et donc, c'est au président du Faso de prendre ses responsabilités et dans l'urgence.
Michel Rabot, responsable du mouvement dénommé COSCA, a dénoncé pour sa part l'attitude volontairement ambiguë des responsables de la CODER.
Les actes que la CODER est en train de poser n'ont rien à voir avec la société civile. Ils ont un agenda politique caché. Et c'est sur ces entrefaits-là qu'on a interpellé en fait les autorités afin qu'elles puissent prendre les dispositions les plus idoines afin que la sérénité revienne. Parce que quoi qu'on le dise, si vous prenez la CODER dans toutes ces déclarations, nulle part elle ne réclame justice réellement. Ce n'est qu'à la dernière minute qu'Abla s'est revenu là-dessus pour dire oui, qu'on ne peut pas aller à la réconciliation de la justice. Mais voyons comment ils sont en train d'agir. Ce qui est certain, c'est que la CODER ne voudrait même pas qu'il y ait justice dans ce pays. Je pense qu'il faut purement et simplement leur dire d'arrêter leur agenda.
Joint au téléphone pour sa réaction, Abla Séo Draogo, un des leaders de la CODER, n'a pas voulu s'exprimer davantage sur ces phrases à polémique. L'un des membres de la CODER, cependant, Achille Tapsoba, du Congrès pour la démocratie et le progrès, botte en touche.
Nous sommes d'accord que certains ne soient pas d'accord avec nous. C'est ça la démocratie. La CODER est une coalition de partis politiques autorisée par la loi de notre pays. Alors, quand on demande notre dissolution, encore une fois de plus, je suis d'accord avec ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. C'est leur droit de demander notre dissolution, mais c'est notre droit d'exister. Et nous allons exister, malgré leur demande de dissolution.
Le M21, le CAR, la COSCA et le MPRESCA, mouvement de l'insurrection populaire, sont à l'origine de ce mouvement, accompagnés par la Ligue des jeunes du Burkina. Ils disent attendre l'acte de dissolution de la CODER. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Les 100 premiers jours de Donald Trump à la Maison-Blanche ont été assombris par plusieurs enquêtes sur une éventuelle interférence de la Russie dans les élections américaines. Beaucoup de questions sont restées sans réponse à ce propos. Le point avec Lionel Gaïma.
Le 10 janvier, les hauts responsables des renseignements américains ont témoigné pour la première fois devant une commission du Sénat sur les efforts russes en vue de saboter la dernière présidentielle américaine. James Clapper, ancien directeur des services secrets. Nous croyons fortement que le président Poutine a ordonné une campagne d'influence en 2016. Ses objectifs étaient d'amoindrir la foi au processus démocratique américain, dénigrer Hillary Clinton et réduire ses chances à la présidence. Monsieur Poutine et le gouvernement russe ont affiché une nette préférence pour Trump, le président élu. Poutine et le russe gouvernement ont aussi développé une claire préférence pour le président Trump. Il y a beaucoup d'accusations, mais très peu de preuves dans le plus gros scandale à secouer Washington depuis plusieurs années. Après plusieurs semaines de bibille, il y a eu la démission du conseiller de Trump à la sécurité nationale, le limogeage de la ministre intérimaire de justice et la décision du président de la commission du renseignement de la Chambre de se récuser de ses enquêtes liées à ce scandale. Finalement, le directeur du FBI rend public ce qui était déjà l'objet des supputations en disant que son agence avait commencé une enquête sur la Russie en juillet dernier.
I have been authorized by the Department of Justice to confirm.
J'ai obtenu le feu vert du ministère de la Justice pour que le FBI mène des enquêtes sur les efforts du gouvernement russe visant à interférer dans les élections de 2016, ce qui inclut la nature d'éventuels entre des individus associés à la campagne de Trump et le gouvernement russe. Donald Trump a qualifié ces accusations de canulars, affirmant que le vrai scandale, c'est la surveillance que l'administration Obama aurait ordonnée sur lui et ses associés pendant la campagne de l'année dernière. Ce sont des fausses nouvelles, Mais pour Richard Benveniste, ancien procureur dans le scandale de Watergate, l'enquête sur Trump, c'est du sérieux. Ça met en relief les vulnérabilités de notre démocratie et des autres démocraties dans le monde sur des techniques d'interférence, le piratage informatique, la désinformation et plusieurs sortes de perturbations dont nous devons être protégés. Et les parlementaires américains veulent aller jusqu'au bout et aussi longtemps que cela prendra. Richard Burr, président de la commission du Sénat sur le renseignement. On ne dira jamais assez ce que la mission de la commission, qui est de passer à la loupe toutes les activités que la Russie a pu mener pour altérer ou influencer les élections de 2016 aux États-Unis. Et la commission sénatoriale sur les renseignements est l'une des cinq entités qui doivent regarder de plus près cette interférence russe. Sept employés de cette commission doivent passer en revue des milliers de documents classés secrets. Une vingtaine de témoins seront interrogés, dont Jared Kushner, le gendre et conseiller de Donald Trump. Le FBI a refusé de commenter, mais le mois dernier, son directeur James Comey a affirmé qu'il est franchement impossible de dire le temps que l'enquête prendra.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Lionel Gaïma, à la console Joe Gill, à la présentation Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook, bien sûr, et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à tous sur VO Afrique.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville, sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, le monde aujourd'hui sur VOA Afrique.